tout de suite, c'est le journal de Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. C'est le rendez-vous annuel de l'élite économique mondiale. Le forum de Davos s'ouvre aujourd'hui et durera jusqu'à vendredi. 3000 participants y sont attendus, des intellectuels, des chefs d'État et surtout des chefs d'entreprise. En revanche, le ballet des hélicoptères et des limousines dans la ville enneigée n'aura pas amené cette année de véritables têtes d'affiche. Et puis surtout, entre tensions politiques et croissance au ralenti, c'est peu de dire que l'ambiance n'est pas franchement au rendez-vous.
Quelques 800 000 fonctionnaires placés en congé sans solde ou contraints de travailler sans être payés.
Oui, aux États-Unis, passe dans les discussions budgétaires se poursuit de sorte que le shutdown entre ce mardi dans son deuxième mois.
Dans un contexte international bouleversé, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont signé ce matin à Aix-la-Chapelle un traité bilatéral.
Thomas. Objectif, accélérer la convergence franco-allemande et contribuer à l'approfondissement européen. Un texte qui ne fait pas l'unanimité en France et en particulier du côté de l'extrême droite. Même si l'affaire porte son nom, Alexandre Benalla n'était pas le seul à être auditionné hier par la commission d'enquête sénatoriale. Son acolyte Vincent Crass, ex-employé du parti présidentiel, il a notamment confirmé avoir travaillé pour un oligarque russe, mais une fois seulement parti de l'Elysée. Enfin, les lycéens de terminale voulant entamer des études supérieures pourront s'inscrire à partir d'aujourd'hui sur Parcoursup. La nouvelle version de la plateforme d'admission post-bac inaugurée l'an dernier a connu quelques modifications et pour en parler avec nous, invité du journal dans une vingtaine de minutes, Frédéric Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Alors il dit qu'il aime bien le dissensus, la discussion. Il va l'ouvrir justement avec ce court essai sur la post-vérité dont on dit bien du mal. Cette ère de la post-vérité, de la désinformation dans laquelle nous serions entrés, lui se demande si finalement elle ne pourrait pas s'avérer profitable pour la démocratie. Invité le philosophe Manuel Cervera-Marzal, il sera avec nous à partir de 12h55.
Merci, à tout à l'heure. À peine arrivé dans la station de ski huppée, des grisons couvertes d'un épais tapis neigeux sur laquelle règne actuellement un froid quasi polaire. Voilà que l'élite économique mondiale a vu la température ambiante chuter un peu plus brusquement encore après avoir été cueillie à froid dès hier par un bulletin vigilance signé du FMI. Une récession mondiale n'est pas au coin de la rue, mais le risque d'un recul plus prononcé de la croissance mondiale a augmenté. L'alerte a été lancée par la directrice générale du Fonds monétaire international elle-même, Christine Lagarde, laquelle a d'ailleurs osé un parallèle de circonstances avec les dangers de la pratique du ski en cas de blizzard. Nous avons besoin que tout le monde reste sur la piste. Alors la semaine passée déjà, l'OCDE anticipait une année noire pour 2019. Hier, c'était donc au tour du FMI de mettre en garde les dirigeants mondiaux, à la fois sur le rythme de la croissance, mais aussi le mécontentement populaire qu'alimente des inégalités toujours plus criantes. Ou dit autrement, Isabelle Chaillou, l'année 2019 ne pouvait pas commencer sous de moins bons auspices.
En montagne, la météo change vite et le beau temps peut rapidement virer à la tempête. C'est vrai, même à Davos. L'année dernière, les chefs d'entreprise affichaient crânement leur optimisme à toute épreuve. Ils expriment désormais leurs inquiétudes. 42% seulement anticipent une croissance de leur activité. 29% sont même carrément pessimistes. C'est 6 fois de plus qu'en 2018. En cause, une très longue liste de craintes égrenée par Bernard Guénier du cabinet de conseil PwC qui a réalisé cette étude.
Les patrons d'entreprise se disent, faisons attention, il y a des risques importants, la cybersécurité, les cybermenaces, les tensions mondiales géopolitiques, donc les problématiques de commerce mondial, le fait que les tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis sont importantes, les conflits sociaux, les tensions politiques, le fait qu'on n'a pas trouvé de solution pour réguler l'économie. Tout ça fait qu'il y a une tendance générale au repli sur soi.
Le repli sur soi qui se manifeste aussi par la désaffection des dirigeants politiques pour Davos, avec les absences très commentées d'Emmanuel Macron, Donald Trump et Theresa May. Le temps s'annonce maussade au Forum économique mondial.
Effectivement, l'absence cette année de Donald Trump, Theresa May et Emmanuel Macron pour cause respectivement de shutdown, de Brexit et de gilets jaunes devrait de facto céder le devant de la scène à deux figures de la montée du populisme dans le monde, le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte d'une part et le président brésilien Jair Bolsonaro d'autre part. Dès son arrivée hier dans les Alpes suisses, ce dernier a d'ailleurs lâché quelques mots aux journalistes qu'il attendait. Nous sommes ici pour montrer que le Brésil a changé, un changement qui passe en particulier par la lutte contre la corruption, l'une de ses grandes promesses de campagne, laquelle se retrouve pourtant légèrement contredite aujourd'hui par le tout premier scandale. Depuis l'accession au pouvoir du président d'extrême droite, les transactions financières de son fils est née dans le viseur d'une agence gouvernementale. Nous l'évoquons déjà en creux depuis le début de ce journal. Le shutdown entre donc ce mardi dans son deuxième mois aux États-Unis. La paralysie partielle des administrations a débuté le 22 décembre en raison de l'opposition des démocrates au projet de mur à la frontière mexicaine. Depuis, aucune solution n'a été trouvée, obligeant pas moins de 800 000 fonctionnaires à rester au chômage technique ou à travailler sans être payés. Une crise historique donc, et à laquelle personne ne semble en mesure d'apporter aujourd'hui la solution. C'est une correspondance à Washington signée Grégory Phillips.
Le patron de la majorité républicaine au Sénat va défendre tout à l'heure devant ses collègues le plan présenté samedi par Donald Trump, à savoir le déblocage de 5,7 milliards de dollars pour construire ce mur à la frontière mexicaine et dans le même temps un sursis accordé à environ 1 million d'immigrés qui pourraient obtenir une régularisation de leur situation pour les trois prochaines années. Mais Mitch McConnell sait très bien que ce plan n'a aucune chance d'être adopté et la démarche vise surtout à mettre la pression sur les démocrates et à montrer à l'opinion publique que c'est bien l'opposition qui est responsable de ce shutdown, alors que tous les récents sondages montrent que pour une majorité d'Américains, c'est le président Trump qui est responsable de ce blocage. Bref, la situation est presque aussi paralysée qu'une partie des administrations américaines. Ce vendredi, normalement, c'est jour de paye pour les employés fédéraux. S'il n'y a pas d'accord d'ici là, pour la deuxième fois en un mois, 800 000 d'entre eux recevront un bulletin de salaire avec dessus 0 $.
Comme un jour sans fin, là aussi tenu hier de présenter un plan B après le rejet massif par la Chambre des communes de son projet d'accord de divorce avec l'Union européenne, la première ministre britannique se sera essentiellement bornée à déclarer aux parlementaires qu'elle cherchera à arracher de nouvelles concessions aux Européens. Pas franchement de quoi se montrer optimiste donc quant à l'issue du prochain vote des députés britanniques programmé le 29 janvier, d'autant qu'hier soir l'opposition travailliste a déposé un amendement qui, le cas échéant, contraindrait le gouvernement a laissé aux élus le temps d'examiner plusieurs options, y compris celle d'un second référendum sur la sortie de l'UE, ou quand le Parlement cherche à prendre l'initiative sur le Brexit, quitte à ajouter au désarroi politique une crise constitutionnelle. Carlos Ghosn, sous les verrous depuis plus de 2 mois à Tokyo, avait promis de rester au Japon s'il était remis en liberté. À l'évidence, ses arguments n'ont pas convaincu la justice japonaise. Ce matin, l'ex-magnat de l'automobile s'est vu refuser par le tribunal une nouvelle demande de libération sous caution. C'était en novembre dernier, ses recherches avaient provoqué un tollé mondial. Le chercheur chinois qui prétend avoir créé les premiers bébés génétiquement modifiés va faire l'objet d'une enquête de la police chinoise, sans compter qu'hier les autorités ont confirmé qu'une deuxième femme était actuellement enceinte à la suite de l'expérimentation du chercheur chinois. C'est une correspondance à Pékin signée Dominique André.
Après la naissance des jumelles dont l'ADN a été modifié pour les rendre résistantes au virus du sida, une deuxième femme est enceinte, révèle l'agence de presse officielle Chine Nouvelle. La sécurité publique chinoise va donc prendre le relais de l'enquête menée jusque-là par les autorités de la province du Guangdong dans le sud du pays, où M. He a mené son expérience des ciseaux génétiques. Cette pratique qui modifie le génome est interdite presque partout dans le monde, y compris en Chine. C'est une technique connue mais controversée, car la modification du génome peut être transmise avec des risques méconnus aux générations futures. Selon les résultats de la première enquête, M. He a agi à titre privé, recherchant la gloire avec ses propres fonds. La situation se complique donc pour le chercheur. Une enquête policière est maintenant lancée. L'université de Shenzhen a mis fin au contrat de He Tianquan.
L'un et l'autre y avaient déjà reçu le prix Charlemagne récompensant leur engagement en faveur de l'unification européenne. Et ce matin, réunis dans la salle du couronnement de l'hôtel de ville d'Aix-la-Chapelle, Emmanuel Macron et Angela Merkel auront de nouveau fait montre de leur infatigable volonté de renforcer la construction de l'UE. Au moment même où celle-ci apparaît pourtant et plus que jamais affaiblie tant par les affres du Brexit que par la montée des nationalismes. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à toutes et tous.
Vous êtes sur place à Aix-la-Chapelle, 56 ans après le traité de réconciliation de l'Elysée. Angela Merkel et Emmanuel Macron ont donc signé un nouveau traité dit de convergence, un texte censé refléter l'intensité de cette relation d'amitié, souvent qualifiée de moteur de l'Europe, mais qui en réalité témoigne presque tout autant de la difficulté à lui donner un nouveau souffle.
Oui, il y a 56 ans, quand on parlait de ce traité de l'Elysée, on parlait d'un texte de réconciliation entre les deux pays. En 1963, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont, 56 ans plus tard, dans leur discours ce matin, largement insisté sur ce point, sur ce mot de réconciliation. 56 ans que l'on évoque aussi le couple franco-allemand, ou bien le moteur, ou encore le tandem, ce duo aussi, et selon les époques, plus ou moins en forme, c'est vrai, plus ou moins efficace, ce traité d'Aix-la-Chapelle doit donc relancer la machine en quelque sorte, mais tout reste à faire, c'est la mise en garde de la chancelière Angela Merkel ce matin. Écoutez-la.
Je sais l'inertie parfois de nos réponses aux nouveaux défis. Je sais l'obstination qui conduit à l'ajournement de décisions. Combien de fois on entend dire « aujourd'hui ce n'est pas possible ». Voilà pourquoi ce qui sera déterminant, c'est de savoir si derrière ce traité, il y a une vraie volonté de lui donner vie et substance.
Emmanuel Macron s'est engagé lui aussi à donner vie et substance à ce traité, promettant, je le cite, « l'unité, la solidarité et la cohésion entre la France et l'Allemagne ». Ce sont, dit-il, les maîtres mots de ce texte. Mais tout ceci, disons-le, reste lointain, peu concret. Je viens de croiser le député du Bas-Rhin, député français Sylvain Wasserman, qui fait partie des 18 parlementaires, 9 Français et 9 Allemands, à avoir travaillé sur ce traité en amont. Et s'il admet que le couple franco-allemand a pu être en meilleure forme, il estime justement que ce sont dans ces moments très difficiles pour l'Europe, surtout quand l'Europe ne va pas très bien, que l'un de ses membres fondateurs, la Grande-Bretagne, veut le quitter, eh bien, c'est dans ces moments-là que le moteur franco-allemand doit être plus fort. Et ce traité, pense-t-il, va permettre à ce duo franco-allemand d'être plus fort dans un avenir très proche, Thomas.
Merci Ludovic Piétenu en direct d'Aix-la-Chapelle ainsi qu'à Olivia Ranger pour les moyens techniques. Alors au-delà de la difficulté qu'ont Paris et Berlin à traduire en avancées concrètes, le nouveau souffle qu'ils assurent vouloir donner à l'amitié entre les deux pays, ce texte suscite par ailleurs la controverse en France. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
En particulier, l'extrême droite y voit une perte de souveraineté nationale. Alors sur le fond, ça n'est pas véritablement une surprise, d'autant moins à 4 mois maintenant des élections européennes.
Oui, depuis une dizaine de jours, on a vu fleurir, sur Twitter et Facebook notamment, deux théories fumeuses et complotistes alimentées par les réseaux d'extrême droite concernant ce traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle. La première est que la France aurait décidé de rétrocéder l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Cette rumeur a été lancée par le député européen souverainiste Bernard Monod, ex-Front National, aujourd'hui à Debout la France. Il a lancé cette thèse complotiste le 11 janvier dernier à travers une vidéo postée sur ses comptes YouTube et Facebook. Elle a été vue des dizaines de milliers de fois avant qu'il ne la retire il y a quelques jours. Mais depuis, Marine Le Pen a pris le relais, affirmant elle que ce traité ferait un pas supplémentaire vers le partage avec l'Allemagne du siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors que dit-il en réalité ce traité ? Il prévoit des dérogations pour mener des projets communs dans les régions transfrontalières. Ce n'est pas tout à fait nouveau. C'est par exemple ce qui a permis de construire une ligne de tramway entre la ville de Strasbourg en Alsace et la ville de Kehl de l'autre côté du Rhin en Allemagne. Il n'est donc pas question de vendre l'Alsace et la Lorraine. Il n'est pas non plus question de partager ou de céder le siège permanent à l'ONU. Le traité dit que l'objectif est d'œuvrer pour obtenir à l'Allemagne un siège permanent au Conseil de sécurité. On est donc là dans la divulgation de fausses nouvelles qui ont pour objectif d'alimenter les thèses complotistes et de faire enfler la rumeur sur l'abandon de souveraineté que serait en train d'organiser en secret le président français. Et la perspective, ce sont bien évidemment les élections européennes de mai prochain. Tout ça nous montre que la campagne a bel et bien démarré et qu'elle va se dérouler sur un mode extrêmement rude et binaire entre des forces politiques qui ont décidé de part et d'autre de se réduire à leur caricature. D'un côté, les nationalistes qui veulent ériger des frontières, des murs aux frontières. De l'autre, les mondialistes qui veulent, eux, les ouvrir en grand. Et ce qui ne devrait pas, en revanche, en ressortir grandi, c'est l'objectivité et la sérénité des débats.
Merci Stéphane Robert. Alexandre Benalla s'est défendu hier devant la commission d'enquête du Sénat d'avoir menti au sujet de ses passeports diplomatiques qui, a-t-il dit, lui ont été restitués début octobre, soit bien après son licenciement de l'Élysée fin juillet. En réalité, durant toute l'audition, sa deuxième depuis le début de cette affaire à tiroir, les sénateurs se seront surtout heurtés à un mur puisque l'ex-homme de confiance d'Emmanuel Macron a refusé de répondre à de très nombreuses questions au nom, selon lui, du respect des institutions et des enquêtes judiciaires en cours. Et puis, après les silences de Benalla, les parlementaires ont auditionné, là aussi pour la deuxième fois, Vincent Crasse, ex-employé du parti présidentiel LREM. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour.
Cet ancien chef d'escadron dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie a lui affirmé au Sénat avoir travaillé pour un oligarque russe, mais une fois seulement parti de l'Élysée.
Vincent Crasse, qui s'est montré beaucoup plus loquace que son camarade Alexandre Benalla, ce qui ne constitue pas un exploit. Les deux hommes ont été mis en examen donc pour des violences sur des manifestants le 1er mai dernier. Vincent Crasse a quitté l'Élysée le 4 mai et quand le président de la commission Philippe Bas lui demande pour quelle raison l'Élysée a décidé de mettre fin à ses fonctions, voilà sa réponse.
La médiatisation, enfin les images qui commençaient à tourner et qui était arrivé jusqu'au palais, n'était pas compatible avec mon maintien en poste.
On observera simplement que la même présidence de la République considère au contraire que les mêmes images sont compatibles avec le maintien de M. Benalla en poste. Mais vous n'avez pas à commenter ce point, Monsieur Crasse.
Et c'est en fait Alexandre Benalla qui reste en ligne de mire à travers cette audition. Philippe Bas sous-entend que l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron a bénéficié d'une protection particulière venue d'en haut. Vincent Crasse a donc quitté l'Élysée, ou plutôt il a été quitté par l'Élysée le 4 mai, 3 jours après la manifestation. Il signe un contrat 1 mois plus tard, il s'occupe de la protection d'un oligarque russe. Mais l'affaire du 1er mai finit par rattraper une nouvelle fois Vincent Crasse.
J'ai signé ce contrat le 6 juin 2018, alors que j'ai quitté le palais de l'Élysée le 4 mai 2018. Et ce contrat a duré 3 mois, puisque l'affaire du 1er mai explosant le 18 juillet, ça a ému tout le monde, mon prestataire et le client, et ils ont préféré mettre fin à ce contrat. Il y avait une durée de 3 mois d'essai qui était prévue, donc ce contrat s'est terminé en septembre.
Un contrat de seulement 3 mois, mais qui lui rapporte tout de même la somme de 294 000 euros. Vincent Crasse précise qu'Alexandre Benalla n'est jamais intervenu dans les négociations autour de son contrat et qui n'est en aucun cas lié à sa société.
Merci Antoine Marette. La prostitution relève-t-elle de la liberté d'entreprendre ou de l'esclavage sexuel? C'est un débat brûlant qui s'annonce devant le Conseil constitutionnel qui examinera à partir d'aujourd'hui un recours contre la loi d'avril 2016 qui pénalise les clients. Au total, une trentaine de travailleuses et de travailleurs du sexe ainsi qu'une douzaine d'associations sont à l'origine de cette question prioritaire de constitutionnalité. Exiger que le client d'une prostituée paye une amende de 1500 euros, est-ce contraire au droit constitutionnel? Alors en réalité, ce recours témoigne aussi et surtout de la difficulté aujourd'hui pour une personne prostituée de faire valoir ses droits en allant devant la justice. Nombre de requérants ont vu notamment leur nom publié dans la presse qui, t'arrache légal, n'est évidemment pas sans conséquence lorsqu'on exerce une activité très stigmatisée.
Sur les 4 femmes prostituées et l'unique garçon qui ont d'abord porté cette QPC, 3 étaient connues sous leur vrai nom, mais 2 exerçaient sous pseudonyme. Autrement dit, on connaissait Anaïs et Christine, leur voix, leur visage, même puisqu'elles militent au sein du STRAS, leur syndicat, et passent parfois à la télévision, mais pas leur vraie identité, explique Anaïs.
Je savais que potentiellement, mon nom pourrait sortir. En théorie, ça n'aurait jamais dû arriver. Mais cette loi était tellement dangereuse pour nous, il y a eu tellement de conséquences. Il y a eu un moment où moi je me suis dit c'est pas possible, donc je vais me porter requérante et puis tant pis, je prends ce risque parce qu'on peut pas continuer à mourir sans rien dire. Vanessa est décédée, je peux pas juste rester là en me disant qu'il faut que je protège mon anonymat. Donc j'étais consciente de ça, mais c'est hyper violent quand vous vous retrouvez avec quand même dans le journal votre nom et votre prénom et que vous vous dites ben voilà, ils l'ont fait.
Vanessa Campos était une prostituée transgenre qui a été assassinée au Bois de Boulogne en août dernier. Ses collègues estiment qu'elle s'était isolée pour échapper à la pénalisation des clients et qu'elle est donc une victime de la violence générée par la loi. Mais monter au créneau, demander justice et voir son nom publié reste très compliqué, poursuit Anaïs.
Ça veut dire que si j'ai des enfants, mes enfants vont le savoir, que les voisins vont le savoir, que voilà. C'est d'une violence inouïe. Et moi, j'ai des collègues qui ne peuvent pas donner leur identité parce qu'elles sont de pays où si on sait qu'elles exercent, elles risquent la mort. Et leur famille aussi. Donc, ce n'est pas une façon de parler quand on dit qu'on risque la mort. Non, on risque gros.
Médecins du Monde affirme ainsi que 40, peut-être 50 prostituées ont renoncé à se joindre à la QPC examinée aujourd'hui.
C'est aujourd'hui l'heure du choix pour plus de 800 000 lycéens et étudiants. Réorientation, depuis 2h30 maintenant, ils peuvent inscrire leurs vœux sur Parcoursup à partir des 14 000 formations disponibles. Et pour en parler avec nous, invité de ce journal, Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Bonjour madame.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger en studio, Victoria Coussa. Bonjour Victoria.
Bien, bonjour.
Première question madame Vidal, pour éviter les couacs de l'an passé, certains élèves sans affectation, les temps d'attente à rallonge, vous avez procédé à des ajustements. Qu'est-ce qui va changer avec cette version 2 de Parcoursup, susceptible de rassurer les lycéens qui, selon un sondage pour le Figaro, seraient 57% à se dire stressés par cette procédure?
Alors, ce qui est très important, c'est de comprendre que Parcoursup, c'est un outil technique qui a pour vocation de favoriser l'orientation, de faciliter l'affectation et surtout de permettre de prévoir les accompagnements nécessaires à la réussite pour les étudiants lorsqu'ils arrivent dans les premiers cycles universitaires notamment. Nous avions un panel d'utilisateurs que nous avons consulté régulièrement pour savoir quelles étaient les évolutions à apporter à la plateforme. Et nous avons aussi évidemment entendu un certain nombre d'interrogations sur la lenteur de la procédure au mois d'août l'an dernier. C'est pourquoi nous avons choisi de raccourcir la procédure, puisque au mois de juillet, plus de 97% des jeunes avaient leur affectation l'année dernière. Donc cette année, la phase principale se terminera le 19 juillet, ce qui facilitera évidemment les inscriptions et les projets de mobilité de certains étudiants. Nous avons aussi fait en sorte qu'il y ait plus de formations sur la plateforme, et notamment toutes les formations en sciences infirmières, puisque c'est là aussi une économie pour les familles, plus besoin de payer les inscriptions au concours, plus besoin de se déplacer pour passer les concours, un calendrier commun à toutes ces formations. Et puis, nous avons aussi mis en place ce qu'on a baptisé un répondeur automatique, ce qui permettra, après les épreuves du baccalauréat, pour tous les jeunes qui le souhaitent, eh bien, d'indiquer leur ordre de préférence, de façon à ce que la plateforme, au fur et à mesure que les réponses arrivent, puisse les affecter.
Une question de Victoria Coussa.
Oui, bonjour Frédéric Vidal.
Bonjour.
Le défenseur des droits vous donne 2 mois pour rendre public tous les critères de sélection des dossiers, tous, pas seulement l'algorithme national, mais les algorithmes locaux par établissement. Qu'est-ce que vous lui répondez aujourd'hui?
Alors, ce qui est très important, c'est que à la fois le comité scientifique et éthique de la plateforme, qui est une commission indépendante, qui a rendu son rapport au Parlement, le défenseur des droits, font un certain nombre de recommandations. Et parmi les recommandations faites par le défenseur des droits, il y a effectivement la question des critères qui sont aujourd'hui publics, puisqu'ils ont été mis sur la plateforme. C'est aussi une forme d'amélioration.
Les critères nationaux.
Les critères nationaux et les critères des différentes formations lorsque ces formations ont des critères particuliers. C'est donc maintenant parfaitement accessible sur la plateforme. Je crois que ce qui est très important, c'est d'être dans un processus permanent d'évaluation et d'amélioration, ce qui est le principe même de ce que nous avons souhaité pour faciliter l'orientation des jeunes.
Il y a cette crainte justement de certains jeunes du risque de discrimination, des élèves qui craignent par exemple que leur candidature soit triée en fonction de leur lycée d'origine, par exemple qu'ils aient moins de chances qu'un élève d'un lycée mieux coté d'accéder à une formation. Au moment du bilan du premier Parcoursup, vous aviez évoqué l'idée d'anonymiser les dossiers. Où vous en êtes sur cette réflexion?
Alors, c'est très important cette question de ressenti d'exclusion, et c'est un sujet sur lequel il est très important que nous puissions avancer. D'abord, ce que je voudrais rappeler, c'est que la plateforme l'an dernier a fait plus de propositions, notamment à des lycéens qui venaient de régions parisiennes sur des formations Paris Intramuros, mais que néanmoins, en termes d'acceptation, on voit que le nombre n'a pas changé. Donc ça, c'est la première question moi que je souhaite poser. C'est pourquoi, alors qu'il y a eu plus de propositions, finalement, c'est le même nombre de lycéens qui ont accepté cette mobilité. Pour répondre à ça, et à la demande aussi du sénateur Lafond, qui avait été chargé d'une mission spécifique sur l'Île-de-France et Paris, nous avons fait en sorte que cette année, l'Île-de-France soit considérée comme une seule académie, donc Créteil, Versailles, Paris, la mobilité sera absolue. La question de l'anonymisation, c'est un sujet sur lequel je m'étais engagée à travailler. Nous continuons à y travailler. C'est un sujet plus compliqué que ce qu'il semble au départ, notamment pour des questions d'internat. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on est obligé de savoir, pour des questions aussi de bulletin de notes. C'est très compliqué que les professeurs n'indiquent pas le prénom ou ne genrent pas leurs annotations.
Ou l'adresse du lycée.
Donc on continue à travailler sur ce sujet, parce que je pense que même si les chiffres montrent qu'il n'y a pas de discrimination particulière, c'est très important de rassurer les jeunes. S'ils pensent qu'il y en a une, il faut qu'on puisse répondre à ça.
Vous avez parlé de la sectorisation Île-de-France. Paris, Créteil, Versailles, c'est désormais une seule entité. Sur le papier, un étudiant de Saint-Denis a les mêmes chances qu'un autre francilien d'étudier à Paris, à la Sorbonne par exemple. Mais qui nous dit que la Sorbonne ne va pas lui préférer un élève avec une moins bonne moyenne, mais diplômé du lycée Louis-le-Grand ?
Alors, tout l'objectif de ce que nous avons mis en place, et je tiens d'ailleurs à remercier à la fois les enseignants, les professeurs principaux du secondaire, les conseillers d'orientation qui accompagnent les jeunes, et les enseignants, les enseignants-chercheurs du supérieur et les bureaux d'orientation universitaire. Tout ce que nous avons fait, c'est vraiment créer ce continuum du bac moins 3 jusqu'au bac plus 3 avec un véritable passage de relais entre ce qu'on appelle le SCO et le SUP. Il faut bien comprendre que notre objectif, c'est de faire en sorte que on ait un véritable accès beaucoup plus démocratique à l'enseignement supérieur, qu'on ne se contente pas de massifier cet accès. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille, y compris sur les raisons pour lesquelles, même lorsqu'ils ont des propositions, les jeunes peine à se déplacer et à avoir cette mobilité. Les établissements ont des critères de sélection qui sont maintenant affichés pour les filières sélectives. Ils indiquent quels sont les critères qui seront pris en compte pour les classements dans les filières non sélectives. Je crois qu'on peut faire confiance aux établissements pour faire en sorte que chacun trouve sa place dans l'enseignement supérieur.
Merci Frédéric Vidal.
Merci à vous.
Frédéric Vidal, donc ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, je le rappelle. Merci d'avoir été en direct avec nous et merci à Victoria Coussin. On termine avec un mot rapide de météo marqué par une vigilance orange pour neige sur 24 départements allant du nord au centre de la France. Quelques précipitations sont à prévoir sur la Normandie et l'Occitanie. Les températures, elles seront généralement comprises entre 0 et 10 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.